Histoire des îles Marquises, de Akakayo te Henua Enana, te Fenua Enata. Une série de 60 émissions conçues, réalisées et racontées par Jacques Jacopo Pello.
Chers amis des îles Marquises et du reste du monde, Kaohanui.
Et bienvenue dans cette cinquième émission,
édition 2023,
qui va nous mener en 1774, année du premier passage d'un navire étranger aux Marquises depuis 1595. C'était celui du capitaine James Cook. Mais d'abord,
j'aimerais revenir sur le dernier épisode et le passage des Espagnols dans les îles du Sud. Le but de cette série d'émissions est bien sûr d'en apprendre un peu plus sur l'histoire des îles Marquises, Te Henua Enana, Te Fenua Enata. Et un des objectifs qui me préoccupe le plus, c'est, à travers les divers écrits que les étrangers nous ont laissés, de me rapprocher le plus possible de la réalité ancienne, de l'ancienne culture. C'est intéressant de savoir que Mendaña a passé quelques jours dans l'archipel, mais il est tout aussi crucial d'essayer de comprendre l'impact de son passage. Or, si dans le journal de bord de Mendaña, ce dernier ne cache pas sa cruauté envers les Enata, c'est que les Espagnols n'avaient pour eux aucun respect. Dans leur esprit, ils n'étaient que des sauvages et des païens rencontrés par hasard sur leur route. Pour les Enata de Fatuiva, quel souvenir son passage a-t-il bien pu laisser dans leur mémoire? Nous l'ignorons tous. On sait que les faits marquants étaient souvent mis en musique par les Ka'ioi, ces jeunes vivant sans contrainte, allant de vallée en vallée et d'île en île, et qui étaient chargés d'animer les fêtes Koika, de nouvelles créations artistiques, chants et danses. Les mois et les années suivant 1595, la nouvelle de la violence des étrangers de passage a dû se retrouver au cœur de nombreuses chansons et mimes, racontées encore et encore le soir au cœur des maisonnées, peut-être, au terme de plusieurs mois, est-elle même parvenue dans les îles du Nord, bien avant que des étrangers y posent le pied. 5 ans après le passage des Espagnols, commençait le XVIIe siècle, les années 1600 à 1700. Pendant ces années-là, on n'a aucun document nous parlant d'une manière ou d'une autre de ce qui s'est passé aux îles Marquises. Il faut attendre la fin du XVIIIe siècle, 1774 très précisément, pour que le célèbre capitaine Cook passe aux îles Marquises et laisse dans son journal quelques traces de son passage. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Mais si nous avançons un peu dans le temps, nous avons quand même des idées de ce qui s'est passé, non pas au XVIIe siècle, mais au XVIIIe siècle. En effet, quelques années après le passage du capitaine Cook, en 1797, les missionnaires protestants sont arrivés en Polynésie, et un d'entre eux a séjourné sur l'île de Tahoata entre 1797 et 1798, une année entière, puis 6 mois complets, sur l'île de Nukuhiva, jusqu'au début de 1799. Et ce jeune pasteur, qui s'appelait William Pascoe Crook, avec un R, âgé d'à peine 23-24 ans, s'il n'a pas réussi à convaincre les marquisiens de la justesse ou de l'importance de la religion protestante, en tout cas, il nous a laissé dans son journal un nombre incalculable de données sur la vie des marquisiens de l'époque, aussi bien à Tahuata que à Nukuhiva. Il a décrit, bien sûr, la vie de tous les jours des marquisiens, il a décrit leurs coutumes, leurs guerres, leurs cérémonies, certaines cérémonies auxquelles il avait pu assister, et surtout, il a laissé des noms. Il a laissé le nom de tous les membres de la famille gouvernante des chefs de Tahuata, et aussi tous ceux de la famille des chefs de Taiohae. Ce qui fait que nous avons quelques estimations qui nous permettent de placer un certain nombre de naissances, en particulier au cours du XVIIIe siècle.
Oh.
Entre 1720 et 1730 à Nukuhiva, on peut estimer que c'est l'époque de la naissance des grands-parents du chef Kiatonui.
Moana et Titi Hakaiki, chef de Meawe Hoata, et de Puakakahu, chef de Pakiu, Hikoei et Havao.
Tandis qu'à Tahuata, c'est à peu près l'époque de la naissance de Mavipu, chef de Hema. Une vingtaine d'années après, entre 1740 et 1750 à Nukuhiva, on peut estimer aussi que c'est la naissance des parents de Kiatonui,
Timauteii et Putahaii.
À Tahuata, c'est aussi la naissance de Honu, fils de Mavipu, auquel il succédera comme chef des Hema. Entre 1760 et 1770 à Taiohae, c'est la naissance probable de Kiatonui, futur Hakaiki de la tribu des Teii. Par son père, Timauteii, disparu jeune en mer lors d'un voyage à Eyao, il hérite des terres, privilèges et titres de son grand-père paternel,
chef des vallées de Pakiu, Hikoei et Havao, qui se nommait Puakakahu ou Puakakaa, selon les membres de la famille interrogée.
Il était vénéré comme Etua, divinité, après sa mort.
La mère de Kiatonui, Putahaii,
est fille de Titi Hakaiki et de Moana, chef de la vallée Meao et de la vallée Hoata. En sa qualité de fils aîné, c'était Moatitahi qui aurait dû succéder à Moana à sa mort. Mais devant sa déficience mentale, c'est-à-dire son incapacité mentale à prendre la direction de la tribu, l'héritage et les privilèges qui auraient dû lui revenir échoient à la descendance de sa sœur, qui de surcroît a de nombreux enfants déjà adultes et capables de soutenir les prétentions de leur mère au moment de la mort de Moana. Il s'agit bien sûr de Puta Haii, dont nous avons déjà parlé. Entre-temps, avec l'âge qui a Tonui, initié au culte sacré, a été élevé à la fonction de Tau'a, grand prêtre inspiré. Avec le décès de son grand-père Moana, dont la date nous est inconnue, qui fait de lui divinité principale de l'île, et Tua, Kiatonui devient Haka'iki Ta'apu, chef de tous les Teihi de Taiohae. Son nom de Kiatonui signifie « grand balancier de pirogue » ou « nombreux balanciers de pirogue ». Comme beaucoup de jeunes chefs, tout au long de sa vie, il a pris d'autres noms, reçus lors d'occasions très spéciales comme mariage, circoncision et tatouage. Il s'appelait aussi Paka'u o Teihi, nom qui démontre l'imagination et le sens du concret des anciens marquisiens. En effet, Ka'u signifie « débris, déchets ». Et son nom entier, « pas de déchets ici ». Comme le veut la tradition, ce nom sera donné à son petit-fils, futur père de Te Moana, dont le fils même, Moana Tini, le transmettra à son fils adoptif, nommé aussi Rōryō. Kiatonui s'appelait aussi Teiki Meiteaki Piutete, un nom précieux qui est resté dans sa famille jusqu'à ce jour. Avec le nom de Kiatonui, il portait l'autre nom de Tapiika, signifiant « alliance » ou « rapprochement », autant de qualificatifs donnés par ses grands-parents et qui, au-delà des alliances familiales, contractées pour leurs descendants, démontrent leur volonté de réunir les deux familles, dont l'héritier deviendrait unique chef des deux clans. Quand il épouse Tahia Taioa, bien-aimée des Taioa, appelée familièrement Naoa, fille du chef des Taioa de Haka'ui, Katohomo, l'union des tribus de la côte sud, est achevée. Il meurt soit en 1818 ou 1819 ou peut-être 1820. À la même époque, entre 1760 et 1770, l'île de Tahuata est partagée entre trois grandes tribus. Tout le sud de l'île, entre Waitahu à l'ouest et Hanatetena à l'est, est le territoire des Tupohe, sous l'autorité de Pua'oua. Le nord et l'ouest appartiennent au Hema, dirigé par Honu, communément appelé Pipitoi, qui était le fils de Mavipu. Une troisième tribu, très petite, les Uawai, demeure dans la vallée de Ve'ekaha, à l'extrême nord de l'île. Et une toute dernière tribu occupe la côte nord-est. Elle est dirigée par Puhiputona, chef des Hautini. Ce sont donc les Hautini. Honu et Puhiputona s'allient pour éliminer la tribu de Pua'oua, qui trouve la mort. Après leur victoire, les Hautini s'emparent du territoire des Tupohe, jusqu'à même devenir menaçant pour les Hema. Du coup, les Tupohe s'enfuient à Hiva'oa où ils sont massacrés en plus. En 1791, seule la veuve de Pua'oua et son Pekio, c'est-à-dire son mari secondaire, avaient survécu. Nous voici donc arrivés en 1774, entre le 8 et le 12 avril, ou le 6 et le 10 avril selon d'autres sources, lors de son deuxième voyage dans le Pacifique, le capitaine James Cook, sur le navire Resolution, fait escale à Waitahu, sur l'île de Tahuata, pour se ravitailler. Il est accompagné du capitaine Furneaux,
qui commande le navire L'Aventure.
Le premier jour, une quarantaine de naturels, comme Cook nomme les Marquisiens, s'approche à bord d'une dizaine de pirogues. On peut voir des tas de cailloux à l'avant de celles-ci, projectiles adaptés aux frondes que les Enata tiennent enroulés autour de leurs bras. On se souvient de ce qui s'était passé à Fatuiva en 1595, et on voit que, presque 200 ans après, les frondes marquisiennes sont toujours là, présentes dans l'armement. Les Marquisiens échangent des fruits à pain et du poisson contre des clous, un cochon contre un couteau. Et Cook note dans son journal qu'il est impressionné par la prestance, la stature, la force et le tatouage des Marquisiens. Le lendemain, alors que Cook est dans une chaloupe, à la recherche d'un ancrage plus sûr pour son navire, les Enata montent à bord du Résolution et commencent à chaparder, comme ils l'avaient fait à Fatuiva. Cook interdit de tirer, mais dans le vacarme, son ordre n'est pas entendu et un homme est tué. Malgré cet incident, les Anglais débarquent, essayant de renouer le dialogue, sans plus jamais utiliser leurs armes. Un Tahitien est avec eux qui les aide à communiquer.
Il se nomme Hitihiti.
Les scientifiques du bord observent la faune, la flore et la géographie des lieux. Contrairement à ce qui se passera plus tard, ils ne voient aucune femme avant le dernier jour où celle-ci se montre finalement. Ils se procurent des cochons si petits qu'il en faut 40 chaque jour pour nourrir les équipages. Ils rencontrent Honu, le chef des Hema. Appelé Madre de Dios par les Espagnols, Cook nomme Resolution Bay, la baie de la Résolution, la baie de Waitahu qu'il quitte le 11 avril. Ce problème de cochon de porc se produira à chaque fois qu'un bateau fera escale. Les Marquisiens savent bien qu'autrefois, le cochon était réservé uniquement à l'usage des chefs et parfois à l'usage de tout le monde pendant les fêtes, les coïcas. Mais c'était une nourriture extraordinaire. Elle n'était pas là pour tous les jours. Tous les jours, c'était, pour le commun des mortels, c'était popoy matin, popoy midi, popoy soir. Comme encore il y a presque 70 ans.
Pour ceux qui ne connaissent pas la popoy marquisienne, nourriture de base des Enana Enata pendant des siècles, c'est de la purée du fruit de l'arbre à pain, frais, et battu au pilon de pierre avec du fruit fermenté ou mât, ou de nos jours, du taro ou du manioc.
Cook relève donc dans son journal qu'il y a peu de femmes, et que les Enata sont plus beaux et plus propres que les Tahitiens, car ils enterrent leurs excréments. Ils ne laissent pas leurs excréments sur la terre comme ça, ils vont dans des endroits particuliers et ensuite ils les couvrent, comme les chats. Même si par ailleurs, ils déplorent de voir humains et porcins, les cochons, boire au même endroit, dans le même récipient.
Ce que Cook ignorait, et que nous découvrirons dans une prochaine émission, c'est que tout comme leurs cheveux et leurs ongles coupés, les Marquisiens anciens cachaient leurs excréments afin que nul ne s'en serve pour élaborer contre eux un maléfice nommé Nanikaha.
Le manque de nourriture dans lequel se trouve la vallée de Waitahu est la conséquence d'une intrusion récente des Pikina, une tribu du sud de Hiva'oa, venue en pirogue à la recherche de victimes humaines. Ce détail, nous le savons, d'après justement le journal de Forster en français, un des officiers du bord. On a écrit aussi que Cook avait laissé un chat au chef Honu. Ensuite, ceux qui feront souche à Tahuata seront laissés à Tainai, le fils de Honu, par le capitaine Wilson du Duff en 1797. Mais Tainai mettra un tabou sur les chats, ce qui fait que lui seul aura le droit d'en posséder quelques-uns. La prochaine fois, nous traverserons la quinzaine d'années qui sépare le passage du capitaine Cook, 1774, de l'arrivée du pasteur Crook, 1797. Nous verrons comment, au cours de cette période, les îles du Nord ont été connues par le reste du monde et aussi comment, selon leur qualité morale, les visiteurs se sont comportés à l'égard des Enana et des Enata. Avant de conclure, au terme de cette cinquième émission, je voudrais adresser mes remerciements à Séverine, qui, après avoir réalisé mes premières émissions, m'a ensuite permis de les réaliser moi-même. Un grand Koutaounou et aussi à Tehina pour sa participation au générique, ainsi qu'à tous les artistes chanteurs Enata et Enana dont les productions musicales donnent à ces émissions une touche unique et authentiquement marquisienne. Chers amis, cette édition 2019 est la quatrième depuis 2016. Tout au long de mes lectures, j'apprends régulièrement de nouveaux détails qui me contraignent à modifier mon travail.
En septembre 2018, les éditions Haerepo de Tahiti publiaient le journal marquisien d'Edward Robarts, traduit de l'anglais par votre serviteur Jacques Jacopo Pello, qui, en plus du récit des aventures de l'auteur, contient un lexique marquisien français et un complément généalogique traité par Michael Corr. Grâce à un travail minutieux sur le manuscrit, Michael propose une nouvelle graphie des noms anciens des chefs marquisiens et de leurs proches. Par exemple, pour Putahai'i, la mère de Kiato Nui, il propose Putehei. Et pour Tainai, chef des Hema de Tahuata, il propose Tenai'i. Comme je ne peux tous les énumérer ici, je vous recommande vivement la lecture du journal de Robarts qui propose la nouvelle graphie de tous les noms cités par le pasteur Crook dans son récit aux îles Marquises. À bientôt pour la suite de cette histoire touchante et passionnante des îles Marquises. Rejoignez-moi sur ma page Facebook Teeo et sur mon site internet teeo.com. Merci à Thérèse Heikapua Moke pour sa chanson To'unei Henua, mon pays, qui vante le charme des îles Marquises, ainsi qu'à Rataro pour sa chanson Mamae Anao, une mélodie mélancolique qui chante la douleur de l'artiste. Si une question vous brûle les lèvres, n'hésitez pas à me contacter à mon adresse mail kopo@mail.pf ou sur mon Vini 87 756 719. Et rappelle-toi, cher ami auditeur, Nelson Mandela disait « Il faut savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va ». C'est ton histoire qui te permet de savoir d'où tu viens et d'envisager ainsi plus sereinement l'avenir. À bientôt, apai, o oa iho.